Chapitre 37 La prophétie perdue. Les pieds de Harry heurtèrent une surface dure. Ses genoux fléchirent légèrement sous le choc et la tête d'or du sorcier tomba sur le sol avec un clang métallique. Il regarda autour de lui et s'aperçut qu'il était arrivé dans le bureau de Dumbledore. Tout semblait s'être réparé tout seul pendant l'absence du directeur. Les fragiles instruments d'argent avaient repris leur place sur les tables aux pieds effilés et ronronnaient sereinement en laissant échapper par instant une bouffée de fumée. Les portraits des anciens directeurs et directrices somnolaient dans leur cadre, la tête renversée sur le dossier d'un fauteuil ou appuyée contre le bord du tableau. Harry jeta un coup d'œil par la fenêtre. Une ligne verte pâle se dessinait à l'horizon, l'aube approchait. Le silence, l'immobilité, rompu seulement par le grognement ou le reniflement occasionnel d'un portrait endormi, lui était insupportable. Si ce qui l'entourait avait reflété ses sentiments, les tableaux se seraient mis à hurler de douleur. Il fit le tour du bureau, indifférent à la beauté paisible de la pièce. La respiration précipitée, il essayait de ne pas penser, mais il y était bien obligé. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Sirius était mort à cause de lui. C'était entièrement sa faute. S'il n'avait pas été assez stupide pour tomber dans le piège de Voldemort, s'il n'avait pas été tellement convaincu que ce qu'il avait vu dans son rêve était réel, s'il avait simplement accepté l'hypothèse que Voldemort, comme Hermione l'avait dit, comptait sur sa tendance à jouer les héros. C'était insoutenable. Il ne voulait plus y penser, ne pouvait plus le supporter. Il y avait en lui un vide terrifiant qu'il ne voulait ni ressentir ni analyser, une sorte de trou noir que Sirius avait occupé jusqu'alors et d'où il avait disparu. Harry ne voulait plus rester seul avec ce vaste espace silencieux à l'intérieur de lui. Il ne le supportait plus. Derrière son dos, un tableau laissa échapper un ronflement particulièrement sonore, puis une voix froide s'éleva.
« Ah ! Harry Potter !» Phineas Nigellus bâilla longuement et s'étira en regardant Harry de ses yeux étroits et pénétrants.
« Qu'est-ce qui vous amène ici, au petit matin ?» demanda enfin Phineas. « Ce bureau est censé être interdit d'accès à quiconque d'autre que le directeur légitime. Ou bien est-ce Dumbledore qui vous a envoyé ?»« Oh, ne me dites pas que... »
Il eut un nouveau bâillement qui le fit frissonner.
« Y aurait-il un nouveau message pour mon vaurien d'arrière-arrière-petit-fils ?»
Harry fut incapable de dire un mot. Phineas Nigellus ne savait pas que Sirius était mort, mais il ne pouvait se résoudre à le lui annoncer. Prononcer cette phrase rendrait les choses définitives, absolues, irrémédiables. D'autres portraits se réveillaient à présent. Sa terreur à l'idée d'être interrogé incita Harry à traverser la pièce et à poser la main sur la poignée de la porte. Mais elle refusa de tourner. Il était enfermé.
« Cela signifie, j'espère, que Dumbledore sera bientôt de retour parmi nous !»
dit le sorcier corpulent au nez rouge dont le portrait était accroché derrière le bureau directorial. Harry se retourna et adressa un signe de tête affirmatif au sorcier qui le dévisageait avec beaucoup d'intérêt. Puis il essaya à nouveau d'actionner la poignée de la porte, mais elle demeurait immobile.
« Ah, tant mieux !» dit le sorcier. « C'était très ennuyeux sans lui, vraiment très ennuyeux !»
Il s'installa confortablement dans le fauteuil en forme de trône sur lequel on l'avait peint et adressa à Harry un sourire bienveillant.
Dumbledore pense le plus grand bien de vous, hein? Comme vous devez déjà le savoir, dit-il d'un ton réconfortant. Oh oui, il vous tient en grande estime.
Le sentiment de culpabilité qui envahissait la poitrine de Harry comme un parasite monstrueux et pesant lui donnait à présent l'impression de s'agiter, de se tortiller en lui. Harry ne pouvait plus se supporter, ne pouvait plus supporter d'être lui-même. Jamais il ne s'était senti aussi enfermé à l'intérieur de sa propre tête, de son propre corps. Jamais il n'avait éprouvé un désir aussi intense d'être quelqu'un d'autre, n'importe qui. Des flammes, vert émeraude, jaillirent soudain dans la cheminée vide. Harry fit un bond en s'écartant de la porte, les yeux fixés sur la forme humaine qui tourbillonnait dans l'âtre. Lorsque la longue silhouette de Dumbledore s'éleva du feu, Les sorcières et les sorciers accrochés au mur se réveillèrent en sursaut et furent nombreux à lancer des exclamations de bienvenue.
« Merci, merci beaucoup !»
dit Dumbledore à mi-voix. Au début, il n'accorda pas un regard à Harry. S'approchant du perchoir derrière la porte, il sortit d'une poche intérieure de sa robe un fume-sec minuscule, disgracieux et dépourvu de plumes qu'il posa en douceur sur le plateau de cendre au-dessous de la perche d'or sur laquelle fume-sec se tenait ordinairement lorsqu'il avait sa forme adulte.
« Eh bien, Harry !»
dit Dumbledore en se détournant enfin de l'oisillon.
« Je pense que tu seras content d'apprendre qu'aucun de tes camarades de classe n'aura à subir de conséquences durables des événements de la nuit dernière. »
Harry essaya de répondre « Tant mieux !» mais aucun son ne sortit de sa bouche. Dumbledore lui rappelait les dégâts qu'il avait causés et même si pour une fois il le regardait directement, même si son expression était beaucoup plus aimable qu'accusatrice, Harry ne pouvait se résoudre à lever les yeux vers lui.
Madame Pomme Fraîche est en train de rafistoler tout le monde,
dit Dumbledore.
Nymphadora Tonk devra peut-être faire un petit séjour à Sainte-Mangouste, mais apparemment, elle devrait se rétablir complètement.
Harry se contenta d'acquiescer d'un signe de tête en fixant le tapis qui devenait plus brillant à mesure que le ciel s'éclaircissait. Il savait que tous les portraits, accrochés autour de la pièce, écoutaient avec avidité chaque mot que prononçait Dumbledore, en se demandant où ils avaient bien pu aller tous les deux et pourquoi il y avait eu des blessés.
« Je sais ce que tu ressens, Harry !»
dit Dumbledore avec beaucoup de douceur.
« Non, vous ne savez rien du tout !»
répliqua Harry. Sa voix était devenue soudain puissante et ferme. Une fureur intense comme chauffée au rouge jaillissait en lui. Dumbledore ne savait rien de ce qu'il ressentait.
« Vous voyez, Dumbledore !» dit Phineas Nigellus d'un air malicieux. « N'essayez jamais de comprendre les jeunes. Ils détestent ça. Ils préfèrent de très loin rester les incompris tragiques, s'apitoyer sur eux-mêmes, se complaire dans leur... »«
Ça suffit, Phineas !»
l'interrompit Dumbledore. Harry lui tourna délibérément le dos et regarda par la fenêtre. Il apercevait au loin le stade de Quidditch. Un jour, Sirius était apparu là-bas, déguisé en un gros chien noir au poil hirsute pour regarder Harry jouer. Il était sans doute venu voir s'il était aussi bon joueur que James. Harry ne lui avait jamais posé la question.
« Il n'y a aucune honte à éprouver de tels sentiments, Harry !»
dit Dumbledore derrière lui.
« Au contraire, le fait que tu sois capable de ressentir une telle douleur constitue ta plus grande force. »
La fureur de Harry brûlait comme une flamme dans le terrible vide qui s'était installé en lui, et elle le remplissait d'un désir de faire mal à Dumbledore, de lui faire payer son calme exaspérant, ses paroles creuses. « Ma plus grande force, vraiment ?» répliqua Harry d'une voix tremblante, les yeux toujours fixés sur le stade de Quidditch qu'il regardait sans voir.
« Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez pas. »
« Qu'est-ce que je ne sais pas ?»
demanda Dumbledore de la même voix calme.
« C'en était trop. » Harry fit volte-face frémissant de rage. « Je ne veux pas parler de ce que je ressens, compris ?»«
Harry, souffrir ainsi prouve que tu es toujours un homme. Cette douleur fait partie de l'être humain. »«
Alors, je ne veux pas être humain !» rugit-il.
Il prit le fragile instrument d'argent posé sur une table à côté de lui et le jeta à travers la pièce. L'objet se brisa en mille morceaux contre le mur. Divers portraits poussèrent des cris de colère ou de frayeur et la tête d'Armando Dippet s'exclama.
« Non mais vraiment !
Je m'en fiche !» leur cria Harry en saisissant un lunascope qu'il lança dans la cheminée. « J'en ai eu assez ! J'en ai vu assez ! Je veux que ça finisse ! Ça m'intéresse plus !»
Il prit la table sur laquelle avait été posé le fragile instrument d'argent et la jeta également de toutes ses forces. Elle se cassa par terre et ses pieds roulèrent aux quatre coins de la pièce.
« Tu ne t'en fiches pas du tout !»
dit Dumbledore. Il n'avait même pas tressailli ni esquissé le moindre mouvement pour empêcher Harry de démolir son bureau. Il paraissait très calme,
presque détaché.
Tu t'en fiches si peu que tu as la sensation de mourir de douleur, comme si on te vidait de ton sang.
Ce n'est pas vrai !
Hurla Harry si fort que sa gorge semblait sur le point de se déchirer. Pendant un instant, il eut envie de se ruer sur Dumbledore, de le briser lui aussi, de fracasser ce vieux visage si serein, de le secouer, de lui faire mal, de l'obliger à ressentir une minuscule part de l'horreur qui était en lui.
« Oh si, c'est vrai !»
reprit Dumbledore plus calme que jamais.
« Tu as perdu ta mère. Ton père est maintenant l'être qui pour toi tenait lieu de parent. Et tu ne t'en fiches pas du tout. »«
Vous ne savez pas ce que je ressens !» gronda Harry. « Vous êtes là à parler, vous !»
Mais les mots ne suffisaient plus, et casser des objets ne l'aidait en rien. Il aurait voulu courir sans s'arrêter et ne plus jamais regarder en arrière. Il aurait voulu être quelque part où il ne verrait plus ses yeux bleus et limpides, ce vieux visage si calme qu'il finissait par le haïr. Il se précipita vers la porte, saisit la poignée et la tourna violemment. Mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Harry fixa à nouveau Dumbledore. « Laissez-moi sortir !» dit-il. Il tremblait des pieds à la tête.
« Non !»
répondit simplement Dumbledore. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans bouger.
« Laissez-moi sortir !» répéta Harry.
« Non !»
répondit une nouvelle fois Dumbledore.
« Si vous m'enfermez ici, si vous ne me laissez pas, si ça peut te faire plaisir, continue donc à casser mes objets !»
dit Dumbledore d'un ton serein.
De toute façon, j'en ai trop. »
Il contourna son bureau et alla s'asseoir derrière en observant Harry.
« Laissez-moi sortir !»
dit à nouveau Harry d'un ton froid et presque aussi calme que celui de Dumbledore.
« Pas avant que tu aies écouté ce que j'ai à te dire.
Et vous pensez que j'ai envie? Vous pensez que je m'intéresse à... Je me fiche complètement de ce que vous avez à me dire !»
rugit Harry.
« Je ne veux rien entendre. »«
Tu m'écouteras quand même !»
répliqua Dumbledore d'un ton ferme.
« Parce que tu devrais être beaucoup plus en colère contre moi. Si tu m'attaquais comme je te sens sur le point de le faire, je l'aurais totalement mérité. »«
Qu'est-ce que vous racontez ?»
« C'est ma faute, si Sirius est mort !»
déclara Dumbledore sans détour.
« Je devrais plutôt dire presque entièrement ma faute. Je n'aurais pas la prétention de revendiquer toute la responsabilité de ce qui est arrivé. Sirius était un homme courageux, intelligent, énergique. Et de tels hommes n'ont pas coutume de rester chez eux, à se cacher pendant que d'autres courent des risques. Mais tu n'aurais pas dû croire un seul instant qu'il était nécessaire pour toi de te rendre au département des mystères. Si j'avais été plus franc avec toi, Harry, comme j'aurais dû l'être, tu aurais su depuis longtemps que Voldemort essayait sans doute de t'attirer là-bas, et tu ne serais jamais tombé dans le piège en y allant hier soir. Et Sirius n'aurait pas été obligé de venir à ton secours. C'est moi, et moi seul, qu'il faut blâmer pour cela. »
Harry avait toujours la main sur la poignée de la porte, mais ne s'en rendait pas compte. Le souffle coupé, il regardait fixement Dumbledore en écoutant sans vraiment les comprendre les paroles qu'il entendait prononcer.
« Assieds-toi, je te prie, »
dit Dumbledore. Ce n'était pas un ordre, mais une demande. Harry hésita, puis traversa lentement la pièce, jonchée à présent de rouages d'argent et de morceaux de bois, et vint s'asseoir face au bureau directorial.
« Dois-je comprendre ?»
dit lentement Phineas Nigellus à la gauche de Harry.
« Que mon arrière-petit-fils, le dernier des Blacks, est mort ?»«
Oui, Phineas, »
répondit Dumbledore.
« Je ne le crois pas !»
dit Phineas d'un ton brusque. Harry tourna la tête à temps pour le voir sortir de son portrait et sut aussitôt qu'il allait se rendre dans son autre tableau du square Grimmauld. Peut-être irait-il ainsi de toile en toile, en appelant Sirius dans toute la maison.
« Harry, je te dois une explication, »
reprit Dumbledore.
« L'explication des erreurs d'un vieil homme, car je me rends compte à présent que tout ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait en ce qui te concerne porte le sceau des insuffisances de la vieillesse. La jeunesse ne peut savoir ce que pense et ressent le vieil âge. Mais les hommes âgés deviennent coupables s'ils oublient ce que signifiait être jeune. Et il semble bien que je l'ai oublié ces temps derniers. »
Le soleil se levait véritablement, maintenant. Une clarté orange, éblouissante, apparaissait au sommet des montagnes et le ciel brillait d'un éclat incolore. Un rayon de lumière tombait sur Dumbledore, sur ses sourcils et sa barbe argentée, sur les rides profondes de son visage.
« Il y a 15 ans, lorsque j'ai vu ta cicatrice sur ton front, j'ai deviné ce qu'elle pouvait signifier. »
Commença-t-il.
« J'ai deviné que c'était peut-être là le signe d'un lien qui s'était forgé entre toi et Voldemort. »
« Vous m'avez déjà dit ça, professeur, » répondit brutalement Harry. Peu lui importait de se montrer impoli. Il ne se préoccupait plus de grand-chose désormais.
« C'est vrai, »
admit Dumbledore sur un ton d'excuse.
« Mais, vois-tu, il est nécessaire de commencer par ta cicatrice, car il est apparu, peu après ton entrée dans le monde de la magie, que je ne m'étais pas trompé et que ta cicatrice t'avertissait lorsque Voldemort se trouvait près de toi ou qu'il ressentait une émotion intense.
« Je sais, » dit Harry d'un ton las.
Cette faculté que tu as de détecter la présence de Voldemort, même lorsqu'il est déguisé, et de savoir ce qu'il ressent, est devenue de plus en plus prononcée depuis que Voldemort a retrouvé son propre corps et l'intégralité de ses pouvoirs.
Harry ne prit même pas la peine de hocher la tête. Il savait déjà tout cela.
Plus récemment,
poursuivit Dumbledore,
« j'ai eu peur que Voldemort réalise qu'un tel lien existait entre vous. Et en effet, il est arrivé un moment où tu as pénétré si loin dans son esprit et ses pensées qu'il a fini par sentir ta présence. Je parle bien sûr de la nuit où tu as assisté à l'attaque de Monsieur Weasley. »«
Ouais, Rogue m'en a parlé, » marmonna Harry.
« Le professeur Rogue, Harry, »
rectifia Dumbledore à mi-voix.
« Mais ne t'es-tu pas demandé pourquoi ce n'était pas moi qui te l'avais expliqué? Pourquoi ce n'était pas moi qui t'enseignais l'occlumency? Pourquoi je ne te regardais même plus depuis plusieurs mois ?»
Harry leva la tête et vit que Dumbledore paraissait triste et fatigué. « Si. Je me le suis demandé, » grommela-t-il.
Vois-tu, j'étais sûr qu'il ne se passerait pas longtemps avant que Voldemort essaye de s'insinuer dans ton esprit pour manipuler et fourvoyer tes pensées. Bien entendu, je ne voulais pas lui donner de motifs supplémentaires d'agir ainsi. Or, s'il se rendait compte que nos relations étaient ou avaient toujours été plus proches que celle qui existe traditionnellement entre un directeur d'école et un élève, j'étais certain qu'il saisirait cette occasion de se servir de toi pour m'espionner. Je craignais qu'il t'utilise en essayant de te posséder, et je crois, Harry, que ses craintes étaient justifiées. Dans les rares occasions où nous nous sommes retrouvés ensemble, toi et moi, j'ai cru voir l'ombre de Voldemort remué au fond de tes yeux. »
Harry se souvenait d'avoir senti un serpent se dresser soudain en lui, prêt à frapper, dans les rares moments où il avait croisé le regard de Dumbledore.
« Comme il l'a démontré ce soir, Voldemort, en te possédant ainsi, ne cherchait pas ma propre destruction, mais la tienne. Lorsqu'il s'est emparé de toi tout à l'heure, il espérait que je te sacrifierais pour essayer de le tuer. Tu comprends, maintenant, que si je prenais mes distances avec toi, c'était pour tenter de te protéger, Harry, l'erreur d'un vieil homme. »
Il poussa un profond soupir. Harry laissait les paroles de Dumbledore glisser sur lui. Savoir tout cela quelques mois auparavant l'aurait beaucoup intéressé, mais maintenant c'était sans importance, comparé au gouffre qu'avait ouvert en lui la perte de Sirius. Plus rien d'autre ne comptait.
« Sirius m'a dit que tu avais senti la présence de Voldemort en toi la nuit même où tu as vu Monsieur Weasley se faire attaquer. » J'ai su aussitôt que mes pires craintes étaient fondées. Voldemort s'était rendu compte qu'il pouvait t'utiliser pour tenter de te donner des moyens de défense contre lui. J'ai demandé au professeur Rogue de t'enseigner l'occlumensie.
Il s'interrompit. Harry regarda le rayon de soleil qui glissait lentement à la surface lisse et brillante du bureau de Dumbledore, illuminé à un encrier d'argent et une élégante plume rouge. Il savait que les portraits autour d'eux étaient parfaitement réveillés et écoutaient avec passion les explications de Dumbledore. Parfois, on entendait une petite toux ou le froissement d'une robe. Phineas Nigellus, lui, n'était toujours pas revenu.
« Le professeur Rogue !»
reprit Dumbledore,
a découvert que tu avais rêvé pendant des mois de la porte qui ouvre sur le département des mystères. Depuis qu'il a retrouvé son corps, Voldemort était bien sûr obsédé par la prophétie et voulait à tout prix l'entendre. Il pensait si souvent à cette porte qu'elle est apparue dans tes rêves, bien que tu n'aies pas su ce qu'elle signifiait. Et puis tu as vu Rockwood, qui travaillait au département des mystères avant son arrestation, dire à Voldemort ce que nous savions depuis toujours, que les prophéties conservées au ministère de la magie bénéficient d'une haute protection. Seules les personnes auxquelles elles font référence peuvent les ôter de leurs étagères sans être frappées de folie. Dans ce cas précis, il fallait que Voldemort pénètre lui-même dans le ministère, au risque de se révéler au grand jour, ou bien que ce soit toi qui prennes la prophétie pour lui. Il devenait donc de plus en plus urgent que tu maîtrises l'occlumensie.
« Ce que je n'ai pas fait, » marmonna Harry. Il avait décidé de parler à voix haute pour essayer d'alléger le poids de la culpabilité qui pesait sur lui. Une confession le soulagerait un peu de la terrible étreinte qui lui serrait le cœur. « Je n'ai pas pris la peine de m'entraîner. J'aurais pu mettre fin à ses rêves. Hermione ne cessait de me répéter que je devais absolument m'exercer. Si je l'avais fait, il n'aurait jamais pu m'attirer là-bas. Sirius ne serait pas... » Harry sentait quelque chose déborder dans sa tête, un besoin de se justifier, de s'expliquer.
« J'ai essayé de vérifier si vraiment il avait capturé Sirius. » Je suis allé dans le bureau d'ombrage. J'ai parlé à Créature dans la cheminée. Il m'a dit que Sirius n'était pas là, qu'il était parti.
Créature a menti,
dit Dumbledore de sa voix calme.
Tu n'es pas son maître. Il pouvait donc te mentir sans avoir besoin de se punir lui-même. Créature voulait que tu ailles au ministère de la magie.
Il m'y a envoyé exprès.
« Oh oui, oui. Je crains bien que Créature ait servi plus d'un maître ces derniers mois. »«
Et comment pouvait-il faire ?» demanda Harry perplexe. « Il n'est pas sorti du square Grimmauld depuis des années. »«
Créature a saisi l'occasion peu avant Noël, »
répondit Dumbledore,
« quand Sirius, apparemment, lui a dit dehors. Il l'a pris au mot, en l'interprétant comme un ordre. » de quitter la maison, et il est allé chez le seul membre de la famille Black pour qu'il ait encore du respect. Narcissa, la cousine de Sirius, sœur de Bellatrix et épouse de Lucius Malfoy.
Mais comment savez-vous tout cela ? Interrogea Harry. Son cœur battait très vite, et il avait la nausée. Il se souvenait qu'il s'était inquiété de l'étrange absence de créature au moment de Noël, avant sa réapparition dans le grenier.
« Créature me l'a dit, la nuit dernière, » répondit Dumbledore, « quand tu as donné au professeur Rogue cet avertissement codé dans le bureau de Dolores Ombrage. Il a compris que tu avais eu une vision de Sirius prisonnier dans les entrailles du département des mystères. Comme toi, il a tout de suite essayé de contacter Sirius. Les membres de l'Ordre du Phénix ont des moyens de communication plus sûrs que la cheminée de Dolores Ombrage. » Et le professeur Rogue a pu vérifier que Sirius était bien vivant et en sécurité, Square Grimord. Mais quand il s'est aperçu que tu ne revenais pas de la forêt interdite où il t'avait vu partir avec Dolores Ombrage, le professeur Rogue a craint que tu sois toujours persuadé que Sirius était prisonnier de Voldemort. Il a alors alerté des membres de l'Ordre.
Dumbledore poussa un profond soupir et poursuivit.
Alastor Mongrai, Nymphadora Tonk, Kingsley Shacklebolt et Rémus Lupin se trouvaient au quartier général quand il a établi le contact. Ils se sont tous mis d'accord pour aller immédiatement te porter secours. Le professeur Rogue a demandé que Sirius reste dans la maison car je devais arriver d'un moment à l'autre et il fallait que quelqu'un puisse me prévenir de ce qui s'était passé. Entre-temps, le professeur Rogue avait l'intention d'aller voir si tu n'étais pas resté dans la forêt. Mais Sirius n'a pas voulu demeurer en arrière pendant que les autres partaient à ta recherche. Il a donc confié à Créature le soin de me mettre au courant. Et quand je suis arrivé Square Grimord, après le départ des autres pour le ministère, j'ai trouvé l'elfe qui a failli s'étouffer de rire en m'annonçant où Sirius était allé.
« Il riait ?» dit Harry d'une voix caverneuse.
« Oh oui, créature ne pouvait pas nous trahir entièrement. Il n'est pas le gardien du secret de l'ordre. Il lui était impossible d'indiquer aux Malfoy notre lieu de rendez-vous ou de leur parler des plans secrets que nous lui avions interdit de révéler. Il était lié par les enchantements qui s'attachent à son espèce, ce qui signifie qu'il ne peut désobéir à un ordre direct de son maître. Et Sirius, en l'occurrence, il avait cependant donné à Narcissa des informations très utiles pour Voldemort, mais que Sirius avait trouvées trop insignifiantes pour qu'il songe à lui interdire de les répéter.
« Quoi, par exemple ?» demanda Harry.
Par exemple, le fait que l'être qui comptait le plus au monde pour Sirius, c'était toi. »
répondit Dumbledore à mi-voix.
« Ou le fait que tu considérais Sirius à la fois comme un père et comme un frère. Bien sûr, Voldemort n'ignorait pas que Sirius était membre de l'Ordre et que tu savais où il se trouvait, mais les informations de créature lui avaient permis de comprendre que la seule personne pour laquelle tu étais prêt à prendre tous les risques, si elle avait besoin de toi, c'était Sirius Black. »
Harry sentit que ses lèvres étaient devenues glacées, comme engourdies. Alors, quand j'ai demandé à Créature si Sirius était là hier soir,
les Malfoy, qui obéissaient certainement aux instructions de Voldemort, lui avaient dit de tenir Sirius à l'écart, à compter du moment où tu l'aurais vu dans ton rêve subir la torture. Comme ça, si tu décidais de venir voir si Sirius était ou non chez lui, Créature pourrait prétendre qu'il était parti. Pour parvenir à ses fins, Créature a blessé Buck, l'hippogriffe. Au moment où tu es apparu dans la cheminée, Sirius était en haut, occupé à le soigner.
La respiration de Harry était précipitée, haletante, comme s'il n'y avait pratiquement plus d'air dans ses poumons.
créature vous a dit tout ça ? Et ça le faisait rire ? Gronda-t-il.
Il ne voulait pas me le dire, mais j'ai une expérience suffisante de la légilimancie pour savoir quand on me ment ou pas. Je l'ai donc persuadé de me raconter toute l'histoire avant de me rendre moi-même au département des mystères.
Et Hermione, qui n'arrêtait pas de nous dire qu'il fallait être gentil avec lui, murmura Harry les poings crispés sur les genoux.
Mais elle avait entièrement raison, Harry,
assura Dumbledore.
J'avais prévenu Sirius lorsque nous avons décidé d'installer notre quartier général Square Grimmauld, qu'il fallait traiter créature avec gentillesse et respect. Je lui avais également dit que créature pouvait devenir dangereux pour nous. Je ne crois pas qu'il ait pris mes avertissements très au sérieux, ou qu'il ait même considéré créature comme un être doué des mêmes sentiments qu'un homme.
Ne rejetez pas la faute. Ne parlez pas de Sirius comme...
Harry avait tant de mal à respirer qu'il n'arrivait plus à parler normalement, mais sa rage, qui s'était un peu atténuée, explosa à nouveau. Il ne pouvait tolérer que Dumbledore critique Sirius.
Créature est un immonde menteur. Il mérite...
Créature est ce que les sorciers en ont fait, Harry,
répondit Dumbledore.
Oui, il faut avoir pitié de lui. Son existence a été aussi misérable que celle de ton ami Dobby. Il devait obéir à Sirius parce qu'il était le dernier membre de la famille à laquelle l'attachait son état d'esclave, mais il n'éprouvait pas de véritable loyauté à son égard. Et, quels que soient les torts de créature, il faut avouer que Sirius n'a rien fait pour améliorer son sort.
Ne parlez pas comme ça de Sirius !
S'écria Harry. Il s'était relevé d'un bond, prêt à se ruer sur Dumbledore, qui manifestement n'avait rien compris à Sirius, rien compris à sa bravoure, à sa souffrance.
« Et Rogue !» lança Harry. « Lui, vous ne m'en parlez pas ! Quand j'ai voulu dire que Sirius était prisonnier de Voldemort, il a ricané, comme d'habitude !»«
Harry, tu sais bien que devant Dolores Ombrage, le professeur Rogue n'avait d'autre choix que de faire semblant de ne pas te prendre au sérieux. »
répliqua Dumbledore d'un ton ferme.
Mais, comme je te l'ai expliqué, il a informé l'ordre le plus vite possible. C'est lui qui a déduit que tu étais parti pour le ministère en voyant que tu ne revenais pas de la forêt. Lui aussi qui a donné au professeur Ombrage un faux Veritaserum lorsqu'elle a voulu te forcer à révéler où Sirius se cachait.
Harry ne voulait rien entendre. Il éprouvait une sorte de plaisir sauvage à blâmer Rogue. Son terrible sentiment de culpabilité s'en trouvait soulagé et il voulait entendre Dumbledore l'approuver.
Rogue. Rogue asticotait Sirius parce qu'il restait caché dans la maison. Il voulait le faire passer pour un lâche.
Sirius était beaucoup trop intelligent et expérimenté pour se laisser atteindre par des sarcasmes aussi dérisoires.
Assura Dumbledore.
Rogue a arrêté de me donner des leçons d'occlumencie,
reprit Harry avec hargne.
Il m'a expulsé de son bureau.
Je le sais,
répondit Dumbledore d'un air accablé.
J'ai déjà dit que j'avais fait une erreur en ne te donnant pas moi-même ces leçons. Mais à l'époque, j'étais convaincu que rien n'aurait été plus dangereux que d'ouvrir encore un peu plus ton esprit à Voldemort en ma présence.
Rogue aggravait les choses. Ma cicatrice me faisait encore plus mal après mes leçons avec lui.
Harry se souvint des réflexions de Ron à ce sujet et il se lança.
Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'essayait pas de m'affaiblir pour que Voldemort puisse entrer plus facilement dans mon...
« Je fais confiance à Severus Rogue, »
dit simplement Dumbledore.
« Mais j'avais oublié encore une erreur due à l'âge. »
«
que certaines blessures sont trop profondes pour pouvoir guérir. Je pensais que le professeur Rogue parviendrait à surmonter ses sentiments à l'égard de ton père. Je me trompais.
Mais ça, ce n'est pas grave, bien sûr, s'écria Harry, indifférent au visage scandalisé et au marmonnement réprobateur des portraits accrochés au mur. Que Rogue haïsse mon père, ça n'a pas d'importance. Mais que Sirius déteste créature, alors ça ne va pas du tout.
Sirius ne détestait pas créature,
répondit Dumbledore.
Il le considérait simplement comme un serviteur qui ne mérite pas beaucoup d'intérêt. L'indifférence, la négligence font parfois beaucoup plus de dégâts que l'hostilité déclarée. La fontaine que nous avons détruite cette nuit racontait un mensonge. Nous, les sorciers, avons maltraité trop longtemps les êtres qui nous sont proches, et nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé.
Alors Sirius a eu ce qu'il méritait, c'est ça ! Hurla Harry.
Ce n'est pas ce que j'ai dit, et tu ne me l'entendras jamais dire,
répondit Dumbledore d'une voix paisible.
Sirius n'était pas un homme cruel. Il se montrait bienveillant envers les elfes de maison en général, mais il n'aimait pas créature, car c'était un souvenir vivant de la maison qu'il avait tant haïe.
Oui, il la haïssait, s'exclama Harry.
La voix brisée, il tourna le dos à Dumbledore et s'éloigna. Le soleil éclairait brillamment la pièce à présent. Les portraits suivirent Harry des yeux, tandis qu'il marchait dans le bureau, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, sans rien voir autour de lui. Vous l'avez obligé à rester dans la maison, et il avait horreur de ça. C'est pour cette raison qu'il a voulu en sortir la nuit dernière.
J'essayais de préserver sa vie,
dit Dumbledore toujours à mi-voix.
Les gens n'aiment pas être enfermés, s'emporta Harry en se retournant vers lui. Vous m'avez fait la même chose l'été dernier.
Dumbledore ferma les yeux et enfouit son visage dans ses longs doigts. Harry le regarda, mais cette manifestation inhabituelle chez lui, de fatigue, de tristesse, ou d'il ne savait quoi, ne parvint pas à l'attendrir. Au contraire, voir Dumbledore montrer des signes de faiblesse ne faisait qu'accroître sa colère. Il n'avait pas à faiblir au moment où Harry voulait déverser sur lui toute sa rage et sa fureur. Dumbledore posa les mains sur son bureau et observa Harry à travers ses lunettes en demi-lune.
Le moment est venu,
reprit-il,
de te révéler ce que j'aurais déjà dû te dire il y a 5 ans. Assieds-toi, s'il te plaît. Je vais tout te raconter. Je te demande simplement un peu de patience. Tu pourras te mettre en colère contre moi ou faire ce que tu voudras quand j'aurai fini. Je ne t'en empêcherai pas.
Harry lui lança un regard noir, puis il alla se rasseoir sur la chaise qui faisait face au bureau et attendit. Pendant un instant, Dumbledore observa par la fenêtre le parc inondé de soleil, avant de se tourner à nouveau vers Harry.
Et il y a 5 ans, tu es arrivé à Poudlard vivant et en bonne santé,
dit-il,
comme c'était mon intention. Enfin, pas en si bonne santé que ça, tu avais souffert. Je savais que tu souffrirais lorsque je t'ai laissé à la porte de ta tante et de ton oncle. Je savais que je te condamnais à 10 ans d'une vie difficile et obscure.
Il s'interrompit. Harry ne disait rien.
Tu me demanderas peut-être, et tu auras de bonnes raisons pour cela, pourquoi il devait en être ainsi. Pourquoi ne pas t'avoir confié à une famille de sorciers? Nombre d'entre elles auraient été ravies et honorées de t'élever comme leur propre fils. Pour toute réponse, je te dirai que ma priorité était de te garder en vie. Personne d'autre, à ma connaissance, ne courait d'aussi grand danger que toi. Voldemort avait été vaincu quelques heures auparavant, mais ses partisans dont beaucoup étaient aussi redoutables que lui, se trouvait toujours en liberté, furieux, désespéré, violent. Il fallait aussi que je prenne ma décision en fonction des années à venir. Étais-je convaincu que Voldemort avait disparu à tout jamais? Non, non. J'ignorais combien de temps s'écoulerait avant son retour. 10 ans, 20 ans, 50 ans. Mais je savais qu'il reviendrait, et le connaissant comme je le connais, j'étais également certain qu'il ne trouverait pas le repos tant qu'il n'aurait pas réussi à te tuer. Je savais que la connaissance de Voldemort en matière de magie dépasse sans doute celle de tous les sorciers actuels. Je savais que même mes sortilèges les plus complexes et les plus puissants ne seraient pas invincibles s'ils retrouvaient tous ses pouvoirs. Mais ce que je savais aussi, c'était que Voldemort avait une faiblesse. J'ai donc pris ma décision. Tu serais protégé par une ancienne magie qu'il connaît mais qu'il méprise, une magie qu'il a toujours sous-estimée à ses dépens. Je parle bien sûr du fait que ta mère est morte pour te sauver la vie. Elle t'a ainsi doté d'une protection durable qu'il n'avait pas prévue et qui, aujourd'hui encore, coule dans tes veines. J'ai donc placé ma confiance dans le sang de ta mère. Je t'ai amené à sa sœur, sa seule parente, encore vivante.
« Elle ne m'aime pas, » dit aussitôt Harry. « Elle s'en fiche complètement de... »«
Mais elle t'a quand même recueilli, à contre-cœur, peut-être, contre sa volonté, avec fureur, amertume. Il n'en reste pas moins qu'elle t'a accepté, et en agissant ainsi, elle a scellé le sort par lequel je te protégeais. Le sacrifice de ta mère avait fait de ce lien du sang le plus puissant bouclier que je pouvais t'offrir. »
Je ne vois toujours pas.
Tant que tu pourras considérer comme ta maison le lieu où réside le sang de ta mère, il sera impossible à Voldemort de t'atteindre ou de te faire du mal en cet endroit-là. Il a versé le sang de ta mère, mais ce sang vit en toi et en sa sœur. Il est devenu ton refuge. Tu n'as besoin de retourner là-bas qu'une fois par an. Mais aussi longtemps que cette maison reste la tienne, Voldemort ne peut rien contre toi lorsque tu t'y trouves. Ta tante le sait. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait dans la lettre que je lui ai laissée devant sa porte quand je t'ai déposé chez elle. Elle sait qu'en t'accueillant sous son toit, elle t'a gardé en vie pendant 15 ans.
« Attendez, » dit Harry, « attendez un peu. » Il se redressa sur sa chaise et regarda Dumbledore dans les yeux. Vous lui avez envoyé une beuglante. Vous lui disiez de se souvenir. C'était votre voix.
J'ai pensé,
répondit Dumbledore en inclinant légèrement la tête,
qu'elle aurait peut-être besoin de s'entendre rappeler le pacte qu'elle avait conclu en te prenant chez elle. Je me doutais que l'attaque des détracteurs lui redonnerait conscience des dangers qu'elle courait en t'acceptant comme son fils adoptif.
« C'est ce qui s'est passé, » répondit Harry à mi-voix. « Enfin, c'est plutôt mon oncle qui a réagi. Il voulait me chasser, mais après la beuglante, elle a dit que je devais rester. » Il contempla un instant le tapis, puis ajouta « Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec... » Il n'arrivait pas à prononcer le nom de Sirius.
« Et... il y a 5 ans, donc, »
reprit Dumbledore, comme s'il ne s'était pas interrompu,
« tu es arrivé à Poudlard. Sans doute pas aussi heureux, ni aussi bien nourri que je l'aurais souhaité, mais vivant, et, oh, en assez bonne santé. Tu n'étais pas un petit prince gâté, mais tu me semblais dans un état aussi satisfaisant que possible, compte tenu des circonstances. Jusque-là, mon plan avait bien marché. Ensuite, Tu te souviens aussi bien que moi de ce qui s'est passé au cours de ta première année à Poudlard. Tu as magnifiquement relevé le défi qui t'était lancé, et plutôt, beaucoup plus tôt que je ne l'avais prévu. Tu t'es retrouvé face à Voldemort. À nouveau, tu as survécu. Mieux encore, tu l'as une fois de plus empêché de regagner son pouvoir et sa force. Tu t'es battu, comme l'aurait fait un homme accompli. J'étais plus fier de toi que je ne saurais le dire. Pourtant, il y avait un défaut dans ce merveilleux plan que j'avais établi. Un défaut manifeste, dont je n'ignorais pas, même à ce moment-là, qu'il pourrait tout détruire. Mais, sachant à quel point il était important que ce plan réussisse, j'étais décidé à ne pas laisser ce défaut le compromettre. J'étais le seul à pouvoir empêcher cela. Ce serait donc à moi d'être suffisamment fort. C'est alors que j'ai subi mon premier test, lorsque tu étais couché à l'infirmerie, affaibli par ton combat contre Voldemort.
« Je ne comprends rien du tout à ce que vous dites, » l'interrompit Harry.
« Ce jour-là, tu m'as demandé pourquoi Voldemort avait voulu te tuer quand tu étais bébé, tu t'en souviens ?»
Harry eut un signe de tête affirmatif.
« Aurais-je dû te le dire à ce moment-là ?»
Harry fixa en silence les yeux bleus de Dumbledore. Son cœur avait recommencé à battre très vite.
« Tu ne vois pas encore le défaut de mon plan ?»« Non, peut-être pas. Comme tu le sais, j'ai décidé de ne pas répondre à ta question. 11 ans, me disais-je, c'est trop jeune pour savoir. » Il n'avait jamais été dans mes intentions de te faire si tôt une telle révélation. Elle aurait été trop lourde pour un garçon de cet âge. J'aurais dû reconnaître alors les premiers signes du danger. J'aurais dû me demander pourquoi je ne m'inquiétais pas, outre mesure, de t'entendre poser déjà cette question à laquelle je savais qu'il faudrait un jour apporter une terrible réponse. La vérité, et j'aurais dû me l'avouer à moi-même, c'était que j'étais trop heureux d'avoir un bon prétexte pour ne pas y répondre à ce moment-là. Tu étais trop jeune, beaucoup trop jeune. Ensuite, a commencé la deuxième année à Poudlard. Une fois de plus, tu as dû relever des défis que même des sorciers adultes n'avaient jamais eu à affronter. Et cette fois encore, tu as réussi au-delà de mes rêves les plus insensés. Mais tu ne m'as plus demandé pourquoi Voldemort avait laissé cette marque sur ton front. Oh, bien sûr, nous avons parlé de ta cicatrice. Nous avons approché le sujet de très près. Pourquoi ne t'ai-je pas tout révélé à cette époque? Il me semblait tout simplement que 12 ans, ce n'était guère mieux que 11 pour entendre de telles révélations. Lorsque tu es sorti de mon bureau, tu étais épuisé, taché de sang, mais euphorique. Quant à moi, si j'ai éprouvé un vague malaise à l'idée que je ne t'avais toujours rien dit, il fut très vite étouffé. Tu étais encore si jeune. Je ne pouvais me résoudre à gâcher cette nuit de triomphe. Tu vois, Harry, tu vois le défaut de mon plan, si brillant. J'étais tombé dans le piège que j'avais prévu et dont je m'étais dit que je pourrais l'éviter, que je devais l'éviter. Je te ménageais trop,
dit simplement Dumbledore.
Je me souciais davantage de ton bonheur que de t'apprendre la vérité, davantage de ta tranquillité d'esprit que de mon plan, davantage de ta vie que des autres vies qui seraient peut-être perdues si ce plan échouait. En d'autres termes, j'ai agi exactement comme Voldemort s'attend à ce que nous agissions, nous, les imbéciles qui éprouvons des sentiments d'amour. Y a-t-il quelque chose à dire pour ma défense? Quiconque t'a observé aussi bien que moi, et je t'ai observé plus attentivement que tu ne peux l'imaginer, aurais-tu ce même souci de t'épargner des souffrances supplémentaires après ce que tu avais déjà enduré? Je défie qui que ce soit de dire le contraire. Qu'est-ce que cela pouvait me faire si je ne sais combien de gens dont je ne connaissais ni les noms ni les visages trouvaient une mort violente dans un avenir indéterminé du moment que toi, dans l'instant présent, tu étais vivant, en bonne santé et heureux? Je n'avais jamais rêvé que je serais un jour responsable d'un être tel que toi. La troisième année est alors arrivée. Je t'ai regardé de loin, repousser les détraqueurs, rencontrer Sirius, apprendre qui il était et le secourir. Aurais-je le cœur de te révéler la vérité au moment où tu parvenais triomphalement à arracher ton parrain aux griffes du ministère? Non, bien sûr, mais tu avais 13 ans, et à cet âge, je n'avais plus d'aussi bonnes excuses. Tu étais très jeune encore, c'est vrai, mais tu avais prouvé que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Ma conscience me mettait mal à l'aise, Harry. Je savais que le moment approchait. Et puis, l'année dernière, tu es sorti du labyrinthe après avoir vu Cédric Diggory mourir, après avoir toi-même échappé de très peu à la mort. Là encore, je ne t'ai rien dit, tout en sachant à présent que Voldemort était de retour, qu'il me faudrait le faire très bientôt. Et maintenant, ce soir, je me rends compte que tu es prêt depuis longtemps à entendre la vérité que je t'ai cachée pendant toutes ces années. Tu as donné la preuve que j'aurais dû placer ce fardeau sur tes épaules bien avant. Ma seule défense, la voici. Je t'ai vu affronter des épreuves qu'aucun autre élève de cette école n'a jamais connues, et je ne pouvais me résoudre à en ajouter une autre, la plus grande de toutes.
Harry attendit, mais Dumbledore restait silencieux. « Je ne comprends toujours pas. »
« Voldemort a essayé de te tuer quand tu étais bébé à cause d'une prophétie faite peu avant ta naissance. » Il savait que cette prophétie existait, mais il n'en connaissait pas tous les détails. En voulant te tuer, il croyait accomplir ce qu'elle annonçait, mais il a appris à ses dépens qu'il s'était trompé lorsque le sort qu'il a jeté sur toi s'est retourné contre lui. Depuis qu'il a retrouvé son corps, et surtout depuis que tu as réussi l'exploit extraordinaire de lui échapper l'année dernière, il a résolu d'entendre cette prophétie dans son intégralité. L'arme qu'il cherchait avec tant de constance, c'était celle-là, connaître le moyen de te détruire.
Le soleil avait fini de se lever à présent, baignant de lumière le bureau de Dumbledore. L'armoire vitrée dans laquelle reposait l'épée de Godric Gryffondor brillait d'une blancheur opaque. Les débris des instruments que Harry avait fracassés sur le sol luisaient comme des gouttes de pluie, et derrière lui, fume sec gazouillait dans son nid de cendres. « La prophétie s'est brisée, » dit Harry, l'air interdit. « J'essayais d'aider Neville à monter les gradins dans la pièce où il y avait l'arcade. Sa robe s'est déchirée et la boule est tombée. »
« La chose qui s'est cassée n'était qu'une simple copie de la prophétie destinée aux archives du département des mystères. Mais la prophétie elle-même a été faite à quelqu'un qui possède un moyen de se la rappeler parfaitement.
« Qui est-ce ? » demanda Harry, bien qu'il eût l'impression de connaître déjà la réponse.
« Moi, »
répondit Dumbledore.
Je l'ai entendu il y a 16 ans par une nuit froide et humide, dans une chambre située au-dessus du bar de la Tête de Sanglier. J'étais allé là-bas pour y voir une candidate au poste de professeur de divination. Malgré mes réticences à l'égard de cette matière que j'envisageais de supprimer, mais il se trouvait que cette candidate était l'arrière-arrière-petite-fille d'une voyante très célèbre et très douée. Et la plus élémentaire courtoisie m'obligeait à la rencontrer. J'ai été très déçu, cependant. Il me semblait qu'elle-même ne possédait pas le moindre ton. Je lui ai donc annoncé poliment, j'espère, que je ne pensais pas pouvoir lui confier ce poste, et je me suis apprêté à prendre congé.
Dumbledore se leva, passa devant Harry et se dirigea vers une petite armoire de couleur noire, à côté du perchoir de fume sec. Il se pencha, souleva un loquet et sortit du meuble la bassine de pierre gravée de runes dans laquelle Harry avait vu son père malmener Rogue. Dumbledore revint derrière son bureau, y posa la pancine et leva l'extrémité de sa baguette magique vers sa tempe, d'où il retira de longs filaments argentés, semblables à une toile d'araignée qu'il déposa dans le récipient. Puis il se rassit à son bureau et regarda pendant un moment ses pensées s'étirer et tournoyer au fond de la pancine. Enfin, avec un soupir, il remua doucement la substance argentée du bout de sa baguette. Une silhouette s'en éleva, enveloppée de châle, les yeux énormes derrière ses lunettes, et tourna lentement sur elle-même, les pieds dans la bassine. Mais lorsque Sibyl Trelawney parla, ce ne fut pas de son habituelle voix éthérée et mystique, mais du ton rauque et dur que Harry l'avait déjà entendu employer un jour.
« Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre. » Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois.
La silhouette continua de tourner lentement pendant un instant, puis se replia sur elle-même et disparut parmi les filaments argentés. Un silence absolu régnait à présent dans le bureau. Ni Dumbledore, ni Harry, ni aucun des portraits n'émettait le moindre son. Fume-Sec lui-même s'était tu.
« Professeur Dumbledore ?»
dit enfin Harry, dans un murmure. Les yeux toujours fixés sur la pancine, Dumbledore semblait complètement perdu dans ses pensées.
« Ça, est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ?»«
Cela signifie, » répondit Dumbledore, « que la seule personne qui ait une chance de vaincre définitivement Lord Voldemort est née il y a près de 16 ans, à la fin du mois de juillet, et que ce garçon est né de parents qui, par 3 fois déjà, avaient eux-mêmes défier Voldemort. »
Harry eut soudain l'impression que quelque chose se resserrait autour de lui. À nouveau, il eut du mal à respirer.
« Ça veut dire, moi ?»
Dumbledore prit une profonde inspiration.
« Ce qui est étrange, Harry, »
reprit-il à mi-voix,
« c'est qu'il ne s'agissait pas forcément de toi. » La prophétie de Sibyl pouvait s'appliquer à 2 jeunes sorciers nés tous les 2 à la fin de juillet, cette même année, et dont chacun avait pour parents des membres de l'ordre du Phénix qui, à 3 reprises, avait échappé de justesse à Voldemort. L'un d'eux, bien sûr, c'était toi. L'autre s'appelait Neville Longdubat.
Mais alors pourquoi y avait-il mon nom sur cette prophétie et pas celui de Neville ?
La copie officielle a été étiquetée à nouveau après que Voldemort eut essayé de te tuer,
répondit Dumbledore.
Aux yeux du gardien de la salle des prophéties, il était clair que Voldemort avait voulu t'assassiner parce qu'il avait reconnu en toi celui dont parlait Sibyl.
Mais peut-être que ce n'est pas moi, après tout.
J'ai bien peur,
dit lentement Dumbledore, comme si chaque mot lui coûtait un effort considérable.
Qu'il s'agisse bel et bien de toi.
Vous venez de me dire que Neville est né fin juillet, lui aussi, et que ses parents...
Tu oublies une partie de la prophétie. Le signe distinctif de celui qui pourra vaincre Voldemort, Voldemort en personne, le marquera comme son égal. Et c'est ce qu'il a fait, Harry. C'est toi qui l'as choisi, pas Neville. Il t'a marqué de la cicatrice qui s'est révélée à la fois une bénédiction et une malédiction.
Peut-être s'est-il trompé, objecta Harry. Peut-être n'a-t-il pas marqué la bonne personne.
Il a choisi celui dont il pensait qu'il représenterait pour lui le plus grand danger. Et remarque bien ceci, Harry. Son choix ne s'est pas porté sur celui qui avait le sang pur, alors que d'après son credo, seuls les sorciers de pure ascendance sont dignes de ce nom. Mais sur le sang mêlé, comme lui, il s'est vu en toi avant même de te connaître. Et en te marquant de cette cicatrice, il ne t'a pas tué comme il en avait l'intention, mais il t'a donné un avenir et des pouvoirs qui t'ont permis jusqu'à présent de lui échapper, non pas une fois, mais quatre. Un exploit que ni tes parents ni ceux de Neville n'ont jamais pu réaliser.
« Pourquoi a-t-il fait ça ? »
demanda Harry, qui avait soudain froid et se sentait engourdi. « Pourquoi a-t-il tenté de me tuer lorsque j'étais encore bébé ? Il aurait dû attendre que nous grandissions pour voir si c'était Neville ou moi qui lui paraîtrait le plus dangereux et essayer alors de tuer l'un ou l'autre. »
« Cela aurait peut-être été plus rationnel, en effet, »
admit Dumbledore.
« Mais Voldemort n'avait de la prophétie qu'une connaissance incomplète. La tête de sanglier que Sibyl avait choisie pour ses prix bon marché a longtemps attiré une clientèle, disons, plus intéressante que celle des trois balais. Comme tes amis et toi l'avez découvert à vos dépens, et moi, au mien, cette nuit-là, c'est un endroit où l'on n'est jamais certain de ne pas être entendu par des oreilles indiscrètes. Bien sûr, je n'avais jamais imaginé, lorsque je suis parti rencontrer Sibyl Trelawney, qu'elle allait me confier quelque chose digne d'éveiller l'attention des curieux. La chance que j'ai eue, que nous avons eue, c'est que l'espion présent ce soir-là fut repéré et jeté dehors alors que Sibyl commençait tout juste à me révéler la prophétie.
Alors, il n'a entendu que...
Que le début, la partie qui annonce la naissance au mois de juillet d'un garçon dont les parents ont par trois fois défié Voldemort. L'espion ne pouvait donc avertir son maître qu'en t'attaquant, il risquait de te transférer des pouvoirs et de te marquer comme son égal. Ainsi, Voldemort n'a jamais su qu'il pouvait être dangereux d'essayer de te tuer et qu'il serait plus sage d'attendre d'en savoir plus. Il ne savait pas que tu aurais un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore.
« Mais je n'ai pas ce pouvoir !» s'étrangla Harry. « Je n'ai aucun pouvoir que lui-même ne possède pas. Je serais incapable de me battre comme il l'a fait la nuit dernière. Je ne peux pas posséder d'autres êtres ou les tuer. »«
Il existe une pièce au département des mystères qui reste toujours verrouillée. Elle contient une force à la fois plus merveilleuse et plus terrible que la mort, que l'intelligence humaine, que les forces de la nature. Peut-être est-ce aussi le plus mystérieux des nombreux sujets d'étude qui se trouvent là-bas. Le pouvoir conservé dans cette pièce, tu le possèdes au plus haut point, Harry, alors que Voldemort en est totalement dépourvu. C'est ce pouvoir qui t'a poussé à vouloir à tout prix sauver Sirius cette nuit. Et c'est ce même pouvoir qui a empêché Voldemort de te posséder, car il ne supportait pas d'habiter un corps où cette force qu'il déteste était si présente. En définitive, il n'était pas très important que tu ne saches pas fermer ton esprit. C'est ton cœur qui t'a sauvé.
Harry ferma les yeux. Justement, s'il n'avait pas cherché à sauver Sirius, Sirius ne serait pas mort. Pour retarder le moment où il devrait à nouveau penser à son parrain, Harry demanda sans se soucier vraiment de la réponse.
« Et la fin de la prophétie, c'était quelque chose comme « aucun d'eux ne peut vivre ?»«
Tant que l'autre survit !»
acheva Dumbledore.
« Alors ?»
dit Harry, en allant chercher ses mots au fond du gouffre que le désespoir avait ouvert en lui.
« Cela signifie que... qu'à la fin, l'un de nous deux devra tuer l'autre ?»«
Oui !»
répondit Dumbledore. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Loin, au-delà des murs de la pièce, Harry entendait des bruits de voix. Sans doute des élèves qui se rendaient dans la grande salle pour un petit déjeuner matinal. Il lui semblait impossible qu'il existe encore dans le monde des gens qui avaient envie de manger, de rire, des gens qui ignoraient que Sirius Black avait disparu à jamais et qui d'ailleurs s'en fichaient. Sirius semblait déjà à 1 million de kilomètres de distance. Mais maintenant encore, quelque chose lui disait que s'il avait écarté ce voile, il aurait vu Sirius le regarder, lui faire signe, avec peut-être un de ses rires qui ressemblait à un aboiement.
« Je sens que je te dois une autre explication, Harry, »
reprit Dumbledore d'un ton hésitant.
« Tu te demandes peut-être pourquoi je ne t'ai pas choisi comme préfet. Je dois te l'avouer, j'ai pensé que tu avais suffisamment de responsabilités comme cela. »
Harry leva les yeux et vit une larme couler sur le visage de Dumbledore, puis disparaître dans sa longue barbe argentée.